3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Deux hommes seront extrêmement importants pour la continuité de la franchise de Planet of the Apes de 1968 jusqu'en 1974, soit l'acteur Roddy McDowall ainsi que le producteur Arthur P. Jacobs. Roderick Andrew Anthony Jude McDowall est venu au monde le 17 septembre 1928 dans la ville de Herne Hill à Londres. Après être apparu comme enfant mannequin lorsqu'il était bébé, il remportera un prix d'interprétation dans une pièce de théâtre de son école dès l'âge de 9 ans et commencera à apparaître dans des films dès 1938, faisant ses débuts devant la caméra dans le long-métrage « Murder in the Family ». Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, sa famille déménagera aux États-Unis en 1940, où il obtiendra sa citoyenneté américaine le 9 décembre 1949, ayant tout de même débuté sa carrière cinématographique aux États-Unis dans le film de Fritz Lang, Manhunt, qui sera produit et distribué par la 20th Century Fox. La carrière de l'acteur anglo-américain s'étendra sur plus de 270 rôles à l'écran et sur scène sur une période de plus de 60 ans. En plus de sa carrière d'acteur, de producteur ainsi que de réalisateur, McDowall siégera pendant plusieurs années à divers titres au Conseil des gouverneurs de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, l'organisation qui remet les Oscars, ainsi qu'au comité de sélection du Kennedy Center Awards et sera également élu président de la Fondation Academy en 1998, année de son décès. De plus, il sera reconnu en tant que photographe travaillant avec des magazines de renom tels que Look, Vogue, Collier's et Life. Il réalisera également la couverture de l'album de Barbra Streisand de 1964, The Third Album, et publiera également plus de 5 livres de photographies, chacun contenant des photos et des interviews de profil de ses amis célèbres tels que Elizabeth Taylor, Judy Garland, Judy Holliday, Maureen O'Hara, Katharine Hepburn, Lorraine Bacall et plein d'autres. Le premier livre sera distribué en 1968 sous le titre « Double Exposure ». Du côté d'Arthur P. Jacobs, ce dernier naîtra à Los Angeles le 7 mars 1922. Se spécialisant en cinéma à l'Université de Californie du Sud en 1942, Jacobs deviendra coursier à la Metro Goldwyn Mayer en 1943 et sera promu en tant que publiciste en 1946. Puis, en 1947, il quittera pour les studios Warner Bros. Afin d'ouvrir son propre bureau de relations publiques et, en 1956, fondera The Arthur P. Jacobs Corporation Incorporated. Parmi ses clients se trouvaient Gregory Peck, James Stewart, Judy Garland ainsi que Marilyn Monroe. Ce sera cependant en 1963 que Jacobs fondera la société de production de long-métrage AP Jack Productions, qui verra son premier film, What a Way to Go, distribué par la 20th Century Fox l'année suivante. En 1968, il épousera l'actrice Natalie Trundy, qui incarnera divers personnages dans les 4 suites de la franchise de Planet of the Apes, dont le premier film sera distribué cette même année. Durant sa carrière, Jacobs produira plus de 14 films, dont la version de 1974 de Huckleberry Finn, la version de 1967 du Dr. Dolittle, ainsi que le film de 1969, Goodbye, Mr. Chips. Suite à son décès en 1973, ce sera son épouse, Natalie Trundy, qui prendra le contrôle d'AP Jack Productions et vendra tous les droits et participations financières de la franchise Planet of the Apes à la 20th Century Fox, choisissant de se concentrer sur d'autres projets. Donc, préparez-vous à voyager à travers l'espace-temps et ainsi assister au début de ce qui deviendra un monde fou où les singes prendront leur place comme leaders de notre planète, dirigés par un chimpanzé extrêmement intelligent dont le nom sera associé à l'un des plus grands politiciens, dictateurs et plus grands combattants militaires de notre histoire.
Non, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in.
Turn of a revolution in the art of science fiction filmmaking, the classic Saga of the Apes. These are the most popular and successful films of their kind ever conceived. They began a new motion picture tradition, and they end beyond your imagination. The classic Saga of the Apes, rated PG. 20th Century Fox wants you to go ape.
And now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
This is Dr. Zira, her loving husband Cornelius, and little Milo. The most dangerous to man is little Milo. Why? The time is 1973. The place is right here on Earth. How did they get here? What is their reception?
Welcome, gentlemen, to the United
States. Escape from the Planet of the Apes. Their adventures are completely fresh, completely new. Astonishingly different from what you experienced in Planet of the Apes and beneath the Planet of the Apes. At first, feared and imprisoned.
We'll take the female first. Well, she seems to be pretty smart. All right, we'll go for the banana.
Well, why doesn't she take it?
Because I loathe bananas.
I don't believe it.
Zira, are you mad? Until we know who our friends are and who our enemies...
And how in the name of God are we to know that unless we communicate? We can speak, so I spoke.
President.
The president convenes a special board of inquiry.
Have you a name?
Zira.
Does the other one talk?
Only when she lets me.
Embraced by our civilization, the nation gives them a hero's welcome.
Address, please.
The zoo.
What is it?
Well, it's sort of like grape juice plus.
How is that?
Very wet.
It's certainly the most incredible story this reporter has ever covered.
And you share the impact of every incredible moment.
Must have been the shock.
Shock, my foot. I'm pregnant.
The president's chief advisor wants them murdered, or else the human race cannot survive. The escape. The birth of an infant who could threaten man's very existence.
You're the second human I've kissed. you are the first.
The relentless chase. The stunning climax.
I want that baby. If you won't give it to me, I'll shoot.
Why was Washington thrown into a turmoil by this one baby?
Stop him!
Escape from the Planet of the Apes.
Escape from the Planet of the Apes, ou Les Évadés de la Planète des Singes, est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios 20th Century Fox le 26 mai 1971. Ce film américain d'une durée de 98 minutes coûtera plus de 2 millions à produire et amassera plus de 12,3 millions de dollars sur le continent nord-américain. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Don Taylor, lui qui nous avait donné les films Damien, The Omen 2, ainsi que The Final Countdown. Le producteur sera le producteur américain Arthur P. Jacobs, lui qui avait produit les films Planet of the Apes, ainsi que Goodbye, Mr. Chips. Et finalement, au poste de scénarisation, on y retrouve le scénariste américain Paul Denne, lui qui avait écrit les films Fragment of Fear et Beneath the Planet of the Apes. Dans la distribution, on y retrouve Roddy McDowall, Kim Hunter, Bradford Dillman, Natalie Trundy, Eric Braden, William Windham, Sal Mineo, M. Emmett Walsh et Ricardo Montalban. La civilisation terrestre découvre que les passagers d'un vaisseau spatial tombé dans l'océan près des côtes américaines se révèlent être des singes intelligents, doués de la parole, qui prétendent provenir d'un futur qui s'annonce désastreux pour la race humaine. Malgré une fin apocalyptique et des critiques très mitigées, Beneath the Planet of the Apes fera assez d'argent pour convaincre les exécutifs de la 20th Century Fox de demander au producteur Arthur P. Jacobs une nouvelle suite. Jacobs enverra donc au scénariste Paul Denne, qui avait écrit le film précédent, un télégramme avec le texte suivant « Apes exist, sequel required ». Denne consultera alors l'auteur du roman de la planète des singes, Pierre Boulle, afin de l'aider à imprégner son scénario d'éléments satiriques similaires au film original. Initialement intitulé « Secret of the Planet of the Apes », le premier script de Denne permettra aux personnages adorés des deux premiers films, Soisira et Cornelius, de voyager dans le temps et ainsi revenir dans le passé de notre Terre, plus spécifiquement en 1973. Ce concept de voyage dans le temps sera conçu par Denne et son partenaire de l'époque, James Bernard, afin de pouvoir adapter l'histoire au budget de plus en plus restreint par les exécutifs de la 20th Century Fox, diminuant ainsi le nombre de personnages maquillés en singes et donc amoindrir les coûts de production. Après s'être entendu pour un budget de 2 millions, les exécutifs de Fox envisagèrent d'embaucher les réalisateurs Gene Kelly, Gordon Douglas, Noel Black et Penn Wenkos, mais porteront finalement leur décision sur le metteur en scène Don Taylor, un ancien acteur devenu réalisateur qui s'était spécialisé dans la mise en scène d'épisodes de télévision avant de se rendre au cinéma en 1961 avec Everything's Ducky. Son dernier film, The Five-Man Army, était sorti en salle en 1969 et avait eu un certain succès, l'homme ayant eu la chance de travailler aux côtés d'un jeune scénariste italien du nom de Dario Argento sur ce projet. Alors que Kim Hunter a dû être convaincu par le studio pour faire Beneath the Planet of the Apes, l'actrice sera moins difficile à convaincre cette fois-ci, aimant le scénario de ce nouveau projet, ce qui facilitera les négociations pour son retour une dernière fois dans la franchise. Outre Hunter, Denne, Arthur P. Jacobs et l'acteur Roddy McDowall, les autres grands vétérans des premiers films encore présents étaient le directeur artistique William Kreber et le génie du maquillage John Chambers, qui jouera ici davantage un rôle de supervision que dans les deux films précédents. Sal Mineo se verra offrir le rôle du docteur Milo sur la recommandation de son ami Roddy McDowall. Juste avant le début du tournage, Jacobs demandera que soit ajouté à l'histoire le personnage de Milo, mais demandera, suite au début de la production, que ce personnage soit tué rapidement, l'acteur Sal Mineo trouva le maquillage tellement inconfortable qu'il aura de graves crises de panique durant le tournage de ses scènes. De plus, le producteur Arthur Jacobs voulait initialement embaucher l'acteur Henry Fonda dans le rôle du président des États-Unis, mais le réalisateur s'opposera à cette idée, craignant que la renommée de Fonda n'éclipse le travail des autres acteurs. Ce sera finalement l'acteur William Wyndham qui sera choisi à sa place. Le tournage sera précipité en raison du faible budget de production, celui-ci ne prenant seulement que 6 semaines. Il débutera le 30 novembre 1970 et se terminera le 19 janvier 1971. La scène de la mort de Milo sera tournée juste avant Noël, soit les 22 et 23 décembre, afin de libérer l'acteur le plus rapidement possible de ses obligations. Les extérieurs du drame de science-fiction seront, eux, tournés dans des lieux autour de Los Angeles et de Beverly Hills, notamment au Beverly Wilshire Hotel et dans plusieurs boutiques haut de gamme dans le district de Wilshire et de Beverly Hills. Le Zoo de Los Angeles ainsi que le Musée d'histoire naturelle du comté de Los Angeles seront également utilisés pour le tournage. En plus de ces emplacements, certaines séquences seront filmées au large de la côte de Malibu, au port de San Pedro, à San Clemente, à Grand Haven au Michigan, ainsi qu'au Rancho Park près du terrain de la 20th Century Fox. Malgré la bonne humeur et l'atmosphère amicale sur le plateau, Kim Hunter et Roddy McDowell ressentiront un sentiment d'isolement car ils étaient, règle générale, les seules personnes habillées en chimpanzé. Cependant, le département maquillage, qui, dans le film original, pouvait prendre plus de 4h30 pour appliquer le masque de singe, était en mesure de prendre une heure de moins pour l'application du maquillage durant cette production. L'une des premières versions du scénario montrait les trois singes à bord de leur vaisseau spatial observant la destruction de la Terre. Cette scène fut tournée, mais ne sera finalement pas utilisée dans la version finale du long-métrage. D'ailleurs, l'intérieur du vaisseau fut construit spécialement pour cette scène et ce sera ce même décor qui sera réutilisé quelques années plus tard pour l'épisode d'ouverture de la série télévisée Planet of the Apes. Un autre changement, bien que mineur, entre le scénario initial et le scénario final, concernait la mort de Zira et Cornelius. En effet, dans la séquence originale des événements, le docteur Heislein tuera froidement le bébé chimpanzé. Cornelius tirera sur Heislein, tuant ce dernier, puis jettera son arme à la mer. Alors que les limiers de la police atteignent le navire, Zira tente de descendre la passerelle pour s'échapper, mais elle sera sauvagement mutilée par des chiens. La police lui tirera alors dessus pour la mettre hors de sa misère. Cornelius fera alors semblant d'être toujours armé et sera alors abattu par la police. Cette séquence fut filmée, mais jugée beaucoup trop violente par les producteurs qui décideront alors de changer la conclusion pour celle qui existe aujourd'hui. L'équipage de tournage profitera d'une journée de fermeture du musée d'histoire naturelle pour réaliser quelques séquences, alors que pour le cirque ambulant d'Armando, les chariots et les cages des animaux seront tournés sur un terrain de golf juste en face des studios de la 20th Century Fox. Malgré le fait que les résidents d'Hollywood étaient habitués à regarder des équipes de tournage travailler en plein air, la vue d'un couple de singes sélectionnant des vêtements au Giorgio's Dress Shop et au Dick Carroll Store for Men au cœur de Los Angeles causeront de sérieux problèmes. En effet, des automobilistes furent surpris par la vue de Zira et Cornelius se promenant dans les rues de Los Angeles, ce qui provoquera une collision impliquant plusieurs voitures, bloquant la circulation sur plusieurs pâtés de maison. Pour les deux bébés chimpanzés, dont bébé Milo, deux chimpanzés seront importés d'Afrique 6 mois environ avant le début de la production afin de jouer les 10 rôles. Cependant, l'un d'eux ne survivra pas au voyage, laissant le chimpanzé nommé Kelly jouer les 2 rôles. Une femme sera alors déguisée en chimpanzé pour travailler avec le bébé singe afin d'habituer ce dernier à l'actrice Kim Hunter et à ce qu'il devait éventuellement faire face lors du tournage de ses séquences. L'artiste américain Arnold Meskes, qui avait travaillé pour le poste de télévision CBS en tant qu'artiste d'audience à Los Angeles, couvrant des procès tels que les meurtres de Charles Manson et l'assassinat de Robert Kennedy, sera approché par le réalisateur Don Taylor pour jouer un artiste de salle d'audience dans son film. Mesquès acceptera et passera 4 à 5 jours sur le plateau, utilisant ses temps libres pour dessiner les acteurs et les membres de l'équipe de la production, ces derniers lui achetant par la suite ses œuvres réalisées sur le plateau pour les ajouter à leur collection personnelle. Suite à la fin du tournage, on approchera le compositeur de musique Jerry Goldsmith pour que ce dernier revienne dans la franchise. Goldsmith en profitera pour écrire quelque chose de complètement différent de sa composition de 1968, y ajoutant une guitare électrique, un steel drum et une musique instrumentale qui évoquera beaucoup plus les années 70. Cependant, à cause du budget restreint de la production, la bande originale d'Escape from the Planet of the Apes sera la seule à ne pas être publiée sur disque. Il faudra attendre plus de 38 ans avant que la maison d'édition de disques Varese Sarabande ne sorte celle-ci en CD, soit le 12 octobre 2009. Escape from the Planet of the Apes obtiendra un certain succès au box-office et aura également d'excellentes critiques tant au niveau de l'humour et des commentaires sociaux du film que sur la performance des deux acteurs principaux, soit Kim Hunter et Roddy McDowall. Le film terminera en première position du box-office nord-américain durant sa première semaine de sortie et terminera sa course avec des recettes de plus de 12 millions de dollars sur le continent nord-américain. Une novélisation sera écrite par l'écrivain Jerry Purnell, ancien président du Science Fiction Writers of America, et sera publiée par la maison d'édition Award Books en 1973. Le livre se distinguera surtout par l'ajout de noms et de détails sur de nombreux personnages secondaires apparaissant à l'écran ou dans le scénario de tournage et fera même l'ajout de nouveaux personnages à l'histoire. Le metteur en scène Don Taylor décédera le 29 décembre 1998 au Centre médical de l'Université de la Californie à Los Angeles d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 78 ans. Quant à l'acteur Bradford Dillman, celui-ci vivra de nombreuses années à Montecito, en Californie, et contribuera durant sa carrière à amasser des fonds pour la recherche médicale. Il décédera à Santa Barbara, en Californie, le 16 janvier 2018, à l'âge de 87 ans, des suites d'une pneumonie. L'actrice Kim Hunter, quant à elle, décédera à New York le 11 septembre 2002 d'une crise cardiaque à l'âge de 79 ans. Ses cendres seront alors remises à sa fille après la crémation. Et puis, il y a l'acteur Sal Mineo, qui avait accepté d'apparaître dans ce film parce qu'il espérait que cela relancerait sa carrière, ce qui ne sera malheureusement pas le cas, puisqu'il s'agira ici de sa toute dernière apparition au cinéma, l'acteur étant assassiné dans la nuit du 12 février 1976 à l'âge de 37 ans. Mineo sera tragiquement poignardé au cœur par un agresseur lors d'un vol par un jeune livreur de pizza qui sera arrêté par la police et condamné en mars 1979 à 57 ans de prison. Le meurtrier, du nom de Lionel Ray Williams, obtiendra une libération conditionnelle en 1990 après avoir purgé seulement 12 ans de prison. Les funérailles de Mineo auront lieu à Mamaroneck le 17 février 1976 en présence de plus de 250 personnes et la dépouille de l'acteur sera par la suite enterrée au cimetière Gates of Heaven à New York. Escape from the Planet of the Apes sera le seul film de la franchise qui se terminera avec une ouverture à une suite, ce qui sera rapidement annoncé suite à son succès au box-office nord-américain. Du côté des points forts, eh bien, le scénario trouve ici une façon vraiment ingénieuse de ravigoter la franchise qui semblait avoir atteint un cul-de-sac avec la fin du volet précédent. L'humour fait changement ici du sérieux des deux autres films. Le jeu détendu et chaleureux de Kim Hunter et de Roddy McDowall fait en sorte que Escape from the Planet of the Apes est non seulement le film le plus accessible à l'auditoire général, mais également l'un des meilleurs et préférés des amateurs de la franchise. La réalisation est ici beaucoup plus légère et divertissante et parvient à conserver un certain rythme malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'action ici. Le personnage du Dr. Aslein est un excellent méchant, nous donnant par moments l'impression de voir en lui le personnage de Lex Luthor dans l'univers de Superman, un personnage qui fera tout en son pouvoir afin de protéger le futur de l'humanité, et ce, même s'il doit éliminer deux individus aimés du public. Pour terminer, la musique de Jerry Goldsmith sert ici à alléger le produit, celle-ci étant beaucoup plus relaxe et funky que sa musique faite pour le film de 1968. Mais, du côté des points faibles, ce sera surtout du côté du scénario que l'on verra les faiblesses, celui-ci utilisant des tactiques vraiment faciles de science-fiction pour faire avancer son histoire. L'exemple concret de cela, comment des singes qui ne savaient rien du passé de leur planète et qui ne sont pas plus avancés au niveau technologique peuvent-ils remonter le vaisseau de Taylor pour le réparer et le faire fonctionner afin de retourner dans le passé? De plus, comment ont-ils pu aller chercher le dit vaisseau au fond d'un lac et ce, en plein centre de celui-ci? Finalement, Cornelius, qui ne connaissait rien du passé de l'homme dans les deux premiers films, ici, peut nous faire l'histoire complète de la chute de celui-ci. De plus, il est à se demander comment il se fait que les militaires ne reconnaissent pas le vaisseau de Taylor au début du film, mais l'associent à ce dernier par la suite. Le costume de gorille, responsable de la mort du professeur Milo, est de bien piètre qualité face au maquillage des singes, un bon exemple des coupures budgétaires de la 20th Century Fox. Finalement, il est dommage que l'on n'en profite pas ici pour expliquer pourquoi les singes ont grandi pour être de la même hauteur que l'homme et pourquoi les primates se mettent à marcher comme la race humaine. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur américain Jerry Goldsmith, lui qui avait travaillé sur les trames sonores de Star Trek The Motion Picture, Alien, LA Confidential, Patton et The Sand Peebles, qui est de retour ici pour composer la musique de Escape from the Planet of the Apes. La musique originale apparaîtra dans un segment musical nommé The Escape from the Planet of the Apes Suite, qui sera distribué pour la première fois sur l'album de Planet of the Apes, un CD qui sortira le 26 août 1997 sous l'étiquette Sarabande. Mais bien sûr, on aura finalement sur l'étiquette Varese Saraband, le 12 octobre 2009, la possibilité d'avoir dans son intégralité la trame sonore complète du film Escape from the Planet of the Apes, un CD qui sera distribué à seulement 3000 exemplaires à travers le monde entier. Je vous fais écouter ici un extrait de la musique du film Escape from the Planet of the Apes.
It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed and all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
Hi there, fans. Stand by for cool-off with Lion's Mane. New Supersonic Zoo, the big ice lolly with free picture cards. Hey, get this. New Super Seajet, a three-flavor knockout. And the first ice lolly specially for girls. It's fab. Unfasten your seatbelts, lolly lickers. Cool it with Lion's Mane. On sale now.
It's intermission time, folks, so hurry, hurry, hurry. Step right over to our refreshment center for the most extravagant array of refreshment goodies ever assembled under one roof. Enjoy breathtaking, mouth-watering goodies, everything from a snack to a delicious full meal. At our refreshment center, you'll find a large variety of goodies to satisfy your hunger, your thirst, or your sweet tooth. So hurry, hurry, hurry. Visit our refreshment center now. And now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
The biggest, the newest, the most exciting of all the Planet of the Apes pictures. Climaxed by the spectacular Revolt of the Apes. The most awesome, the most horrifying spectacle in the annals of science fiction. First pampered as pets, then abused as servants, now oppressed as slaves.
Order full mobilization of all security forces, police, militia, and reserve defense units. See that every entrance into the city is cordoned off immediately.
Yes, sir.
Are control methods to improve the use of tear gas and sedation darts?
There will be but one control method. Shoot to kill.
Ready!
Watch the screen explode as man faces ape in the ultimate revolution.
Where there is fire, there is smoke. And in that smoke, from this day forward, my people will plot and plan for the inevitable day of man's downfall. And that day is upon you now!
Conquest of the Planet of the Apes, ou La conquête de la planète des singes, est un drame de science-fiction qui a été distribué en salle par les studios 20th Century Fox le 14 juin 1972. Ce film américain d'une durée de 88 minutes aura coûté 1,7 million de dollars à produire et amassera plus de 9,7 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène britannique John Lee Thompson, lui qui nous avait donné les films The Guns of Navarone, Murphy's Law et Cabo Blanco. Au poste de producteur, ce sera toujours Arthur P. Jacobs, ce producteur américain, qui occupera le poste, lui qui avait bien sûr produit Beneath the Planet of the Apes et la version de 1967 Dr. Dolittle. Et finalement, ce sera le scénariste britannique Paul Dan qui écrira à nouveau le scénario du film ici, lui qui avait travaillé sur les films The Night of the Generals et Goldfinger. Dans la distribution, on y retrouve l'acteur Roddy McDowall, Don Murray, Ricardo Montalban, Nathalie Trundy, Harry Rhodes et Sovereign Darden. Un singe issu d'un couple de simiens intelligents provenant d'un futur éloigné et tué par les hommes organise la révolte de ses congénères traités comme des esclaves par la race humaine. Encore une fois, le producteur Arthur P. Jacobs demandera au scénariste Paul Dan d'écrire le quatrième volet de la franchise, dont l'histoire se situera plusieurs années après la fin du chapitre précédent. Jacobs souhaitait que la production du quatrième film reste chez 20th Century Fox, mais il précisera aux exécutifs que si ces derniers ne participaient pas au projet, qu'il devait alors céder les droits de la propriété de la franchise à Zanuck Brown, une nouvelle société créée par le chef d'entreprise récemment évincé par Fox, soit Richard Zanuck. Finalement, les exécutifs de la Fox accepteront de financer le projet avec un maigre budget de 1,7 million de dollars. La raison pour laquelle les budgets de production de la franchise allaient en descendant était due principalement au fait que les studios 20th Century Fox cherchaient à éviter la faillite suite à des échecs au box-office des films comme Cléopâtre en 1963, Star en 1968 et Hello Dolly en 1969. Au moment de l'écriture du scénario, Jacobs et Dan considéraient que Conquest of the Planet of the Apes serait probablement le dernier film de la franchise. Le réalisateur Johnny Thompson, qui avait maintenu un intérêt pour la franchise depuis que Jacob l'avait invité à réaliser le film original de celle-ci, mais qui dut se désister à cause d'un conflit d'horaire, sera alors embauché pour diriger Conquest. Thompson avait travaillé avec Jacobs sur deux films précédents, soit What a Way to Go en 1964 et The Chairman en 1969. Roddy McDowall, Ricardo Montalban, John Randolph et Nathalie Trundy feront leur retour dans la franchise alors que Don Murray et Harry Rhodes se joindront à la distribution. Il s'agira ici du dernier film dans lequel l'actrice et productrice Asa Maynor apparaîtra sur le grand écran. Le tournage débutera le 31 janvier 1972 et se terminera le 13 mars de cette même année. Le drame de science-fiction sera filmé à l'Université de Californie à Irvine, majoritairement les scènes extérieures. De plus, une grande partie de la production sera centrée sur le complexe des sciences sociales, encore en construction pendant le tournage. Ce sera grâce à une utilisation minutieuse des angles de caméra qui donneront à la poignée de bâtiments l'impression de faire partie d'une grande ville. Certaines séquences extérieures et tous les décors intérieurs seront, eux, filmés dans le backlot de Fox à Century City à Los Angeles. Dès le premier jour de tournage, l'acteur Roddy McDowall se foulera la cheville, lui causant un certain inconfort pendant le reste de la production. Pour la séquence de l'émeute décisive et du siège final, le tournage sera des plus difficiles, dû principalement au fait que la température nocturne de février à Los Angeles était assez froide. Ce seront cependant les assistants réalisateurs chevronnés Buck Hall et Jack Stubbs qui s'assureront que les scènes soient filmées efficacement à travers des étudiants de l'université venus regarder le tournage d'une façon calme et coopérative durant les quelques 7 jours et 6 nuits. De plus, des centaines de figurants et plus de 26 cascadeurs seront présents pour ces séquences élaborées. L'équipe de production dut cependant arrêter tous les coups de feu dès 10 heures le soir et ce, même si la production travaillait jusqu'à l'aube. Afin d'assurer la sécurité, des équipes spéciales de lutte contre les incendies resteront sur place lors du tournage afin d'assurer que les flammes ne se propagent pas au bâtiment. D'ailleurs, ces incendies seront créés à l'aide de plusieurs types d'appareils, notamment des jets de gaz, de la paraffine et des mélanges spéciaux de diesel. L'un des étudiants sur place fut l'acteur Bobby Porter, qui renouera avec certains amis de l'équipe de tournage, ce qui lui vaudra un rôle dans le prochain film de la franchise, soit Battle for the Planet of the Apes. Afin de sauver de l'argent, le directeur artistique Philip Jeffries utilisera la technique du matte painting sur plusieurs séquences, notamment sur la séquence du début du film ainsi que la scène finale où l'on pouvait voir la ville en flammes en arrière-plan. De plus, le département des costumes devra user d'ingéniosité afin de montrer le plus grand nombre de singes sur une même séquence avec l'un des budgets les plus restreints de la franchise. Pour ce faire, seuls les singes étant en avant-plan de la caméra seront maquillés, alors que tous les autres se verront remettre des masques enlevables de basse qualité. Encore une fois, ce sera John Chambers et son équipe qui seront responsables de ce travail difficile. Pour les accessoires et les costumes, ce sera le producteur de télévision Irwin Allen qui viendra en aide à la production, permettant à ceux-ci d'emprunter les combinaisons qui furent utilisées par les membres d'équipage du sous-marin Sea View dans sa série télévisée à succès Voyage to the Bottom of the Sea de 1964 jusqu'en 1968. Ce seront également ces combinaisons qui seront utilisées pour habiller les acteurs jouant des singes. Cela permettra d'économiser sur le coût de la fausse fourrure au niveau du corps pour la foule de figurants de singes, seules les mains et le visage n'étant alors visibles à l'écran. Des vêtements marrons ainsi que des ordinateurs et des armoires seront également empruntés aux producteurs, le tout provenant d'une autre de ces séries à succès, soit de Time Tunnel. D'autres décors et accessoires proviendront d'autres productions d'Irving Allen, telles que le film City Beneath the Sea en 1971, ainsi que la série télé Land of the Giants, diffusée en 1968. Parmi les cinq films originaux, Conquest of the Planet of the Apes est le seul long-métrage qui sera filmé à l'aide de caméras Ariflex avec des objectifs fournis par le groupe Carl Zeiss, les autres films de la franchise ayant été tournés en Panavision. À cause du faible budget, la décision sera prise d'embaucher un jeune musicien de jazz relativement inconnu pour composer la bande originale du film. Ce sera effectivement le musicien Tom Scott, alors âgé de seulement 24 ans, qui obtiendra le poste. Le jeune homme était tout de même le fils de Nathan Scott, largement connu pour son travail de composition de musique sur diverses séries télévisées telles que Lassie, Dragnet et The Twilight Zone. Tom Scott réalisera ici une orchestration assez contemporaine utilisant de nombreux instruments rock. Malheureusement, certains de ces morceaux seront supprimés lors du montage final du long-métrage, y compris sa finale originale de 7 minutes qui sera remplacée, en raison d'une fin revisée, par un segment musical réalisé par le compositeur Jerry Goldsmith pour le film original de la franchise en 1968. Le travail sur Conquest permettra au compositeur de prouver ses qualités de musicien, ce qui lui permettra plus tard d'obtenir des contrats comme compositeur de musique sur des séries télé telles que Starsky et Hutch, The Streets of San Francisco et Family Ties. Conquest for the Planet of the Apes sera le seul film de la série originale à obtenir un classement PG en raison de sa violence et de son sujet délicat relié à l'esclavage. Même que les producteurs durent se battre pour éviter un classement restricted par le MPA. En effet, à l'origine, Conquest devait avoir, comme tous les autres films de la franchise, une séquence pré-titre qui ouvrirait sur des policiers en patrouille tirant sur un singe en fuite et découvrant alors son corps couvert de marques et de contusions témoignant de graves abus. Cette séquence et bien d'autres images sanglantes seront donc supprimées au montage final. La séquence pré-générique apparaîtra cependant dans la novélisation écrite par l'auteur John Jake qui fut publiée en 1974 par la maison d'édition Award Books. Un autre moment qui aura un changement important sera la séquence finale. En effet, durant la scène originale, le gouverneur Breck était exécuté par des singes. Après une projection test en avant-première à Phoenix le 1er juin 1972, l'impact de la réception négative face à la violence graphique poussera les producteurs à retravailler le film, forçant ainsi l'acteur Roddy McDowall à revenir en studio et ainsi réenregistrer le discours final de César, qui sera alors présenté d'une nouvelle façon grâce à des astuces de montage. D'ailleurs, c'est ce qui forcera le remplacement du segment musical final de Tom Scott par la musique de Goldsmith. Conquest of the Planet of the Apes obtiendra plus de 4,4 millions de recettes durant son premier week-end, le plaçant en tête du box-office. Le film obtiendra un succès mitigé, ce qui ne refroidira pas les ardeurs des exécutifs de la Fox qui demanderont, encore une fois, un nouveau chapitre à la saga. Avant la fin de la production, les journalistes visitant le plateau de tournage seront informés de rumeurs concernant un cinquième film qui serait par la suite suivi d'une série télévisée. Au fil du temps, eh bien, l'acteur Ricardo Montalban décédera le 14 janvier 2009 à son domicile de Los Angeles à l'âge de 88 ans des suites d'une insuffisance cardiaque congestive. Il sera enterré au cimetière Holy Cross à Culver City, en Californie. Pour le scénariste Paul Dan, ce dernier succombera à un cancer du poumon le 30 septembre 1976 à l'âge de 63 ans. Dan terminera un traitement pour le film Battle for the Planet of the Apes, mais ne sera plus impliqué dans la franchise suite à Conquest. Il passa les dernières années de sa vie à réaliser des documentaires télévisés et travaillera sur un scénario de Murder on the Orient Express distribué en salle en 1974, son dernier film en carrière. Du côté des points forts, eh bien, malgré un budget presque inexistant, le metteur en scène John Lee Thompson réussit à nous présenter ici une société totalitaire humaine qui cherche à protéger son futur, mais qui sera incapable de changer sa destinée. Sa mise en scène nerveuse nous présente ici beaucoup plus d'action que dans les films précédents et surtout un niveau de violence beaucoup plus élevé. Le réalisateur se permet également d'associer l'évolution de ce personnage principal avec le mouvement esclavagiste de cette époque sombre des États-Unis. Il est d'ailleurs amusant que le seul personnage qui aide César dans ses plans de conquête soit un Afro-Américain. Le réalisateur utilise la nuit afin de camoufler la piètre qualité de certains maquillages dus au faible budget. De plus, sa direction technique est ici impeccable, tirant profit au maximum de ce budget ridicule. De plus, il changera totalement le style de la série et cherchera à conserver un rythme bien soutenu afin de nous donner l'impression que l'on assiste ici à une diffusion d'un film à grand budget avec des décors tout à fait grandioses. Quant à l'acteur Roddy McDowall, celui-ci est encore ici tout simplement magique, nous démontrant pourquoi il est vraiment la bougie d'allumage derrière cette section de la franchise. Nous pouvons d'ailleurs voir avec quelle aisance il interprète le personnage de César et surtout à quel point il s'amuse ici avec le rôle. Mais du côté des points faibles, eh bien le scénario n'apporte absolument rien de neuf à la franchise et est assez simpliste dans l'ensemble. D'ailleurs, il est à se demander pourquoi le personnage d'Armando prend le risque d'amener César dans une grande ville et de risquer de voir son identité secrète révélée. La révolte des singes se développe ici beaucoup trop facilement et beaucoup trop rapidement, n'expliquant pas comment les singes peuvent se mettre à comprendre César lorsque ce dernier leur parle, alors que ceux-ci ont de la difficulté à comprendre ce que les hommes leur demandent. Les scènes d'action finales sont répétitives, ce qui amène une certaine lassitude de cette rébellion au lieu de chercher à trouver une manière plus originale d'éviter cette répétition, le tout étant probablement dû au faible budget de la production. Mais c'est justement ce budget qui sera le plus gros défaut de ce quatrième long-métrage, puisque s'il avait été plus élevé, cela aurait pu nous permettre d'avoir non seulement de meilleurs maquillages, mais peut-être aussi une meilleure mise en scène et quelque chose qui aurait pu donner un second souffle ici à la franchise. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur Tom Scott, ce compositeur américain qui avait travaillé sur la série télé « The Streets of San Francisco », mais également sur les films « Troubles Come to Town » et « The Nine Lives of Fritz the Cat », qui s'occupe ici de la musique de ce film. Je vous présente ici un extrait musical de la trame sonore de « Conquest of the Planet of the Apes ».
Thank you.
Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Escape from the Planet of the Apes 4. J'y vais également avec une cote 4. Le film a été coté par la Régie du cinéma général. J'y vais également avec une cote pour tous. Pour Conquest of the Planet of the Apes, eh bien, Mediafilm a donné une cote 5 à cette production. J'y vais également avec une cote 5. Du côté de la Régie du cinéma, on y va avec une cote générale. J'y vais également avec une cote pour tous, malgré que c'est un film qui contient certaines séquences de violence. Au niveau de la disponibilité du film, Escape from the Planet of the Apes est disponible en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray. C'est la même chose pour le film Conquest of the Planet of the Apes. Il vous est également possible d'avoir en VHS, en DVD et en Blu-ray The Planet of the Apes Collection, qui inclut les 5 films de la saga originale, ou sinon, vous avez Planet of the Apes The Legacy Collection, qui, elle, inclut tous les films de la saga, incluant les plus récents. Au niveau de la trame sonore du film Conquest of the Planet of the Apes, cette trame sonore était disponible sous l'étiquette Film Score Monthly en CD. Elle était en double sur ce CD avec Battle for the Planet of the Apes. Elle s'est sortie en 2001. Et vous aviez la trame sonore du film Conquest of the Planet of the Apes qui était seule sur un CD et de façon digitale. Ça, c'était sorti sous l'étiquette Fox Music en 2011. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.